Chapitre 24.
Elle est devant moi, dans un manteau de laine, ses cheveux remontés par un chignon qui s'éboule. Elle a de nouvelles lunettes. Son parfum me remue à peine. Je me rappelle l'émotion qu'il m'avait donnée la dernière fois quand elle téléphonait à l'arrière de la limousine pendant que je conduisais. Sentir qu'elle avait conservé la même eau de toilette pour vivre avec un autre me faisait plus mal que toutes les images que j'avais pu me fabriquer en pensant à leur couple. Aujourd'hui, c'est différent. Ce que j'éprouve est inchangé, mais lointain. L'homme que je suis devenu n'a plus de place pour elle, plus le droit de retourner en arrière, de se laisser casser par une passion humaine, plus le droit d'être jaloux, dépressif, rancunier. J'ai accepté l'idée qu'elle fasse sa vie sans moi, et j'espère que je pourrai l'y aider à ma manière. C'est la moindre des choses. Notre amour inachevé, dans lequel les autres ne voient qu'un échec, m'aura bien mieux préparé au rôle qui m'attend que toute leur formation culturelle. Je lui dis merci intérieurement, de toute mon âme, et je lui serre la main avec un sourire aimable, comme si elle faisait partie du passé, comme si elle n'était plus pour moi qu'un joli souvenir parmi d'autres. Bonjour Emma. Ça va? Et toi? Elle esquive en ôtant ses gants, les glisse dans sa poche, détaille ma barbe de 4 mois et mes cheveux sur les épaules. J'ai du mal à te reconnaître. Je prends ça comme un compliment. Pourquoi? Je te trouvais beau. C'est vrai que tu n'as pas connu ma période intermédiaire. J'avais grossi de 40 livres. Pas à cause de moi quand même. Un peu. Flatteur. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Enchaîne-t-elle d'un ton joyeux. Pourquoi tu passes à la télé? Tu as gagné un prix? Un concours de piscine? Tu as inventé un nouveau système pour traiter l'eau? Raconte.
Ce n'est pas vraiment ça, mais je voulais que tu aies l'exclusivité.
Cool. Tu as pris un brevet, j'espère. Que les royalties n'aillent pas dans les caisses de ton patron.
C'est moi le brevet, mais ça n'a plus d'importance.
Tu es sympa de m'avoir appelé. Je pensais... Enfin, je me disais... J'aurais pu te donner des nouvelles.
Moi aussi.
Je veux dire, les torts étaient de mon côté. En tout cas, c'était à moi de... Ça aurait été à moi de faire un geste vers toi, plutôt. Non?
Ce n'est pas la question. Je n'ai pas appelé la femme, j'ai appelé la journaliste. Parce que tu me connaissais avant et que j'ai confiance en toi.
Merci, Jimmy. Ça me touche. Et ça me fait plaisir de te voir... Comme ça, quoi. Bien. Enfin, mieux. Tu as rencontré quelqu'un?
Oui.
Je suis contente.
Je souris. Son enthousiasme ne sonne pas faux, mais c'est une protection. Je la sens sur ses gardes, inquiète de ma démarche, bousculée par nos retrouvailles et déstabilisée face à ma sérénité qui a l'air sincère. Elle pensait trouver un ex inconsolable qui refait surface avec une bonne nouvelle, des arguments, des promesses, des propositions de repartir à zéro. Et toutes les défenses qu'elle avait préparées tombent devant mon absence d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'elle soit déçue. Elle n'éprouve plus d'élan pour moi au présent, je le vois bien. Mais elle n'est pas du genre à se sentir diminuée parce que sa victime se relève. Il y a autre chose, de plus profond. Tu ne veux pas t'asseoir, Emma? Elle hésite, puis sort les mains de ses poches. Elle ôte son manteau, le plie sur une chaise, se retourne vers moi. Sous la robe en maille grise, sa poitrine est encore plus belle. Ma respiration s'arrête un instant. Je reviens dans ses yeux. Elle a vu ma réaction. Je lui demande, aussi dégagé, aussi complice que possible.
De combien ?
4 mois, dit-elle en soutenant mon regard. Je hoche la tête. Essaie d'exprimer le minimum d'émotion personnelle dans le haussement de sourcils par lequel je ponctue l'information. Elle s'assied. Je m'assieds aussi en face d'elle, de l'autre côté de la table basse. Je dis « C'est bien ?» Elle se détourne. « Non. » La bouche fermée, elle fixe les produits de maquillage alignés sous le miroir de la loge. Je lui demande ce qui se passe. J'ai eu des problèmes avec Tom. Il n'y a que l'enfant qui l'intéressait, finalement. On a suivi tous les traitements pendant des mois, je te passe les détails, et dès que ça a fini par marcher, il est devenu... Je n'existais plus, quoi. Je n'étais plus que le contenant. Fais attention, ne mange pas ça, ne fume plus, avance ton congé de maternité, arrête de conduire, pourquoi tu sors ? Je culpabilisais au moindre éternuement. Il ne me touchait plus et il ne me lâchait pas d'une semelle. Mon boulot, j'en parle pas. Il ne voulait plus que j'écrive, à cause du rayonnement de l'ordinateur. À même pas 2 mois, tu te rends compte ? Et on ne voyait plus personne à cause de la rubéole. Elle dénoue ses mains, les renoue, tourne autour de son index une absence de bague. Consterné, je l'écoute en me disant que les rêves sont des pièges et que ma nostalgie est tellement plus facile à vivre que sa désillusion. Je l'ai quittée. Je me suis dit, je garde l'enfant et je me débrouillerai, voilà, on le partagera. Au début, il n'a rien voulu entendre, il m'a menacé, maintenant, il se tient à l'écart. Il attend la naissance avec ses avocats. Il me fait suivre, il a trouvé des témoins, il a porté plainte. Suspicion d'avortement. Les flics m'ont convoqué 3 fois, les gynécos ont vérifié, le juge m'a notifié la mise en demeure. Avec la loi sur la protection des naissances, je risque 5 ans si je le perds. Et dès l'accouchement, de toute façon, je le perds. Tom travaille au bureau du procureur. C'est l'horreur, mais c'est ma faute. J'irai jusqu'au bout. Parlons de toi. Je la regarde, effondrée de l'autre côté de la table en verre, essayant de retrouver mon Emma, de projeter l'amoureuse insouciante, la fée des miroirs insatiable et gamine, sur cette femme brisée par son vœu le plus cher. Gênée par le silence qui se prolonge, elle enchaîne dans un effort de légèreté. « Tiens, j'ai eu des nouvelles de Madame Nespoulos. Elle va bien, elle est à Patmos. Elle t'embrasse. » Incapable de prononcer un mot, je lui tends la chemise cartonnée aux couleurs de la chaîne. Ses doigts touchent les miens sur la couverture. Elle prolonge un instant le contact, puis se rejette en arrière pour ouvrir le dossier. Retenant mon souffle, anxieux, je la regarde changer d'expression au fil des lignes. Je me suis trompé. La voix revue me coupe tout mon élan. Devant elle, mes résolutions ne pèsent plus rien, vides de sens, et je perds pied. Son odeur, sa beauté, sa détresse, je ne peux pas vivre sans elle. La tentation du désespoir revient, plus forte que jamais, tandis qu'elle parcourt avec stupeur le communiqué de presse. Défis, missions, responsabilités ne sont plus que des notions théoriques, des pis-aller, des moyens de fuite. Je me croyais à l'abri des passions terrestres désormais. Je croyais avoir maîtrisé le désir, renoncé au sexe et ne plus éprouver qu'un amour de principe pour l'homme en général. Sa féminité meurtrie qui appelle au secours efface tout le reste. Et le désespoir bascule dans l'intuition que tout est possible encore. La prendre par la main, quitter ce lieu, ces gens, oublier qui je suis, ce qu'ils veulent, ce que je me crois tenu d'apporter... Disparaître avec elle, ne plus être que le père adoptif d'un enfant à naître et laisser tomber la terre entière pour faire une famille à la femme que j'aime.